Donc c'est encore une joie et un privilège de venir vous exposer la parole du Seigneur en ce jour. Un jour qui est assez spécial parce qu'on est dans de nouveaux locaux. Mais c'est le même Dieu que nous adorons, le seul et vrai Dieu, que ce soit où nous étions, que ce soit ici ou ailleurs. Il ne change pas. Il est le même et il reste éternel. Amen. Donc nous allons lire ensemble Osée, chapitre 10. Des versets 9 au verset 15. Osée, chapitre 10, versets 9 à 15. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout, la guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élevera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme Chalman détruisit Beth Arbel, au jour de la guerre où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Donc alors que nous réouvrons encore ensemble le livre du prophète Osée, nous sommes encore confrontés à une parole divine à la fois sévère, mais aussi salutaire. Le passage qui nous occupe aujourd'hui, des versets 9 au verset 15, nous montre Israël arriver à un point critique dans sa rébellion contre son Dieu. C'est une parole de jugement, mais aussi une parole qui nous invite à revenir sans hésitation à notre Seigneur. Depuis le début de ce livre, par la bouche de son prophète, Dieu dénonce l'infidélité persistante de son peuple, sa compromission à ses idoles, son autosuffisance et sa justice qui est propre à elle. Et dans notre texte, le Seigneur évoque les péchés historiques d'Israël, comme ceux de Gibéa, pour montrer combien l'injustice, la violence et la fausse sécurité nationale ont creusé la tombe d'un peuple qui était le peuple de Dieu. Un peuple qui se croyait invincible. Augustin d'Hippone a écrit dans son livre « La cité de Dieu » parce qu'il réagissait à la chute de Rome. Il a présenté l'histoire du monde sous l'angle de la cité de l'homme et de la cité de Dieu. La cité de l'homme est centrée sur l'amour de soi, tandis que la cité de Dieu est enracinée dans l'amour de Dieu. Et il écrit, « La cité de l'homme recherche la louange des hommes, tandis que le sommet de la gloire pour l'autre, qui est la cité de Dieu, est d'entendre et d'être à l'écoute de son Dieu. » La compréhension d'Augustin est en parfait accord avec l'histoire biblique, qui présente deux royaumes rivaux à l'œuvre dans le monde, l'un en rébellion contre le Seigneur et l'autre en service d'amour et d'adoration pour son Dieu. Et dans ces versets, le prophète s'adresse au royaume du nord d'Israël, en parlant de deux villes qui représentent son passé et son présent. Et dans cette version, les deux villes ne sont pas opposées, mais elles sont alliées pour la cause du mal. La première, c'est Gibeah, qui est le théâtre de l'un des péchés les plus déplorables de l'histoire d'Israël. On lit dans Juges 19, les chapitres 19 et les chapitres 20. La seconde est Bethel, où se trouve le veau d'or, qui a conduit le peuple à l'adoration des idoles. Ces deux villes et les péchés qu'elles représentent n'appartiennent pas seulement au passé d'Israël, mais définissent aussi son présent, ainsi que le jugement qui en résultera bientôt. Mais en arrière-plan de ce jugement, nous percevons aussi le cœur d'un Dieu saint qui discipline son peuple, non par cruauté, mais pour amener son peuple à lui. En cela, ce texte n'est pas seulement un miroir, comme je le dis, pour Israël, mais il est aussi un miroir pour nous, contemporains d'aujourd'hui, Église du Christ. Il nous rappelle que Dieu ne tolère pas un culte qui est vide, ni une vie chrétienne sans repentance véritable. Et donc aujourd'hui, nous allons examiner ce passage sous trois angles. Donc le premier, le péché, le rappel de ce péché qui est enraciné, donc des versets 9 et 10. Deuxièmement, la fausse sécurité de l'homme, des versets 11 et jusqu'à la première partie du verset 13, et le jugement juste et inévitable de Dieu, la deuxième partie du verset 13 jusqu'au verset 15. Donc mon premier point, le rappel du péché enraciné. Le lieu d'un crime notoire dans notre mémoire, et reste souvent dans notre mémoire collective et culturelle. Je vais prendre par exemple l'exemple de Sarajevo, les attentats de Sarajevo par exemple. C'est resté dans l'histoire, c'est resté dans la mémoire collective. Et dernièrement en France, il y a eu un sombre procès. On parle des viols de Mazan, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une petite ville de France où il y avait un homme qui avait soumis sa femme à des viols. En fait, il droguait son épouse pour que d'autres personnes puissent profiter d'elle. Et vous allez remarquer que même le maire, dans les journaux, le maire de la ville ne voulait pas qu'on parle du nom de Mazan, parce qu'il y avait une mauvaise connotation pour ceux qui venaient peut-être pour visiter la ville. Donc dans les gros titres, on parle des viols de Mazan. Donc ça reste dans la mémoire collective et dans la mémoire de tout le monde. Et de la même manière, le prophète Osée identifie à plusieurs reprises Israël sous l'étiquette de Gibeah. Nous avons vu dans Osée 9, verset 9, où Osée accuse Israël, ils ont plongé dans la corruption comme au jour de Gibeah. Et c'est à Gibeah qu'un Lévite, qui voyageait avec sa concubine, rencontra les hommes de la ville qui s'emparèrent de la femme et la maltraitèrent au point qu'elle en mourut, comme je l'ai mentionné dans Juges 19. Et donc lorsque les autres tribus d'Israël apprirent ce péché, elles rassemblèrent une armée pour attaquer Gibeah, anéantissant pratiquement sa population masculine pour n'avoir pas protégé une femme innocente. Et c'était là des actes d'une extrême violence. On parle du crime de Gibeah qui a conduit à une guerre civile. Et donc ici, Israël était associé à ce crime de Gibeah. Osée souligne que ce péché est récurrent, indiquant une persistance dans l'injustice. Le texte souligne que le péché d'Israël n'est pas un accident isolé, mais une structure historique qui est enraciné dans la rébellion. Osée identifie maintenant la capitale de la Samarie avec le nom de cette ville. Nous lisons verset 9. « Depuis les jours de Gibeah, tu as péché, Israël. » Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibeah. La mentalité de Gibeah n'est pas morte avec ses anciens habitants. Elle est toujours présente. Elle s'est perpétuée dans une Samarie qui est devenue semblable à Gibeah. La leçon de cette dégradation morale du passé n'a pas été retenue par le peuple. Au contraire, son injustice a été répétée, encore et encore. Et en conséquence, puisque Samarie est devenue une nouvelle Gibeah, Dieu va maintenant répéter le jugement infligé à la Gibeah du passé. On le sait tous que la maladie, même le péché, lorsqu'il n'est pas traité, devient, on peut dire, héréditaire. Elle se transmet. Elle est enracinée en nous. Même une église ou une nation peut normaliser l'iniquité au point qu'elle devient la culture elle-même. Dans nos vies aussi, ignorer le péché ancien ou collectif. On peut parler de péché structurel, de péché familial, peut conduire aussi à la ruine. De même que Gibeah a été attaqué pour son injustice, de même Dieu va asséner un coup mortel à Israël. Dieu dit au verset 10, « Je les châtierai à mon gré, je les châtierai selon mon bon plaisir. » Dieu déclare qu'il jugera selon sa volonté souveraine. Un jugement personnel et juste, non arbitraire, parce que ce peuple a péché. Cela reflète la souveraineté de Dieu dans l'administration de la justice. Dieu est souverain sur toute chose. Et notre confession de foi au chapitre 3, paragraphe 1, affirme que Dieu ordonne tout selon le conseil de sa volonté sage et sainte. Il ne prend pas plaisir au péché. Il sanctionne le péché. Et nous lisons le chapitre 3, paragraphe 1. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive. De telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a communion avec quiconque à cet effet. Sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Donc il peut dans sa sagesse infinie retarder un jugement pour que son peuple revienne à lui. Parce que depuis le début, on voit qu'ils persistent dans leur péché. Mais ils ont un Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est patient. Mais ce Dieu-là peut les châtier à n'importe quel moment, selon sa sainte sagesse. La justice avait été retardée contre Israël selon le bon plaisir de Dieu. Mais maintenant, au moment voulu, ce jugement va les atteindre. La vieille Gibeah s'était crue en sécurité en commettant les péchés les plus grossiers et les plus violents. Mais le châtiment s'est abattu sur elle. De même, Samarie se croit à tort en sécurité, oubliant le jugement implacable de Dieu. Contrairement au précédent jugement de Gibeah qui avait été infligé par des compatriotes israéliens, cette fois-ci, Dieu utilisera les armées des nations impies pour les atteindre. Au verset 10, « Et des peuples s'assembleront contre eux. » Donc le Seigneur allait abandonner ce peuple contre des nations impies. Est-ce que vous imaginez un peu à quel point ils ont été abandonnés? Et par ces mots, Dieu montre que tous les hommes sont entre ses mains. Tous les hommes sont entre ses mains. Qu'il peut les armer quand il veut, et cette vérité est enseignée partout dans les Écritures. Dieu tient donc tous les hommes sous son commandement. Il peut, quand cela lui plaît, les inciter à la guerre. Nous lisons dans Ésaïe 45, verset 12, « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. » Notre Dieu est le maître absolu de l'univers. Et par conséquent, alors qu'Israël, insouciant, se moquait du jugement de Dieu, il montre maintenant à quel point sa vengeance sera efficace, car il rassemblera tous les peuples pour leur destruction. Le jugement du Seigneur contre la Samarie sera définitif et absolu. Nous lisons toujours au verset 10. Quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ici, la capitale israélite est représentée comme un criminel qui est ligoté en captivité. Avec une accusation particulièrement grave à laquelle il faut répondre. Une double iniquité. Probablement l'idolâtrie, mais aussi cette corruption politique, le fait de se reposer sur soi ou de se reposer sur les autres pays, sur des puissances étrangères. Parce que la deuxième ville à laquelle Osée compare Samarie est Bethel où régnait l'immoralité spirituelle, l'idolâtrie. Ce qui constitue la principale accusation portée contre Israël dans le livre d'Osée. Le prophète avertit les Israélites que rien ne leur serait utile. Même s'ils se fortifièrent contre tous les dangers, et bien qu'ils rassemblent des forces de tous côtés, car tous leurs efforts n'empêcheraient pas Dieu d'exécuter cette sentence. Rien. Ils auraient pu s'allier avec n'importe qui. Cela n'aurait pas empêché Dieu d'exécuter une sentence qui était juste pour le péché que ce peuple a commis. Jean Calvin observe que Dieu n'est pas seulement spectateur des péchés, il est aussi l'exécuteur du jugement. Ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir au péché. Il nous laisse pécher, 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 et il reste impassible. Non. Dieu exécute son jugement sur tous les pécheurs. Parce que la souveraineté de Dieu dans le jugement met en lumière notre responsabilité morale absolue. Si le Seigneur nous châtie, c'est parce que nous avons failli moralement. C'est comme un enfant, hein. On ne punit pas un enfant parce qu'il était gentil. C'est comme ça que Dieu aussi avec nous, nous qui sommes ses enfants. La punition ici intervient à un moment choisi par Dieu, parce que notre Dieu est souverain sur sa création. Il exerce son autorité suprême, même sur nous. Lorsque nous lisons ce passage, c'est un appel à une repentance authentique et à ne s'appuyer que sur Dieu. Le double péché dénoncé, l'idolâtrie, On peut parler aussi du syncrétisme, le fait de mélanger des religions et la confiance en soi ou en des alliances humaines sont condamnables. Et l'Église et son corps doivent veiller à cette pureté doctrinale et à une confiance unique et exclusive au Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ. Mon deuxième point, la fausse sécurité de l'homme, des versets 11 à la première partie du verset 13. Nous allons relire ces passages. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Une génisse bien nourrie, mais paresseuse. Le prophète compare Israël, Éphraïm, à une génisse bien dressée. Une génisse qui aime le travail facile, comme fouler le grain, ce qui permettra à l'animal de manger tout en travaillant. C'est un peu comme si vous étiez à votre travail, en même temps que vous travaillez, en même temps vous êtes en train de manger. Ça montre toute la paresse, toute la... Et ça, c'est une image d'un peuple qui jouit des bénédictions de Dieu sans vouloir en porter la responsabilité. Israël veut les fruits de l'alliance sans en vivre la fidélité. Ben, c'est comme demander, Seigneur, bénis-moi, veille sur moi, mais en même temps, ben, je continue dans le péché, ainsi de suite, encore et encore. Mais je m'attends à ce que Dieu me vienne en aide. C'est un peu, je me rappelle, à un moment donné, j'étais jeune. Bon, je suis toujours jeune. Donc, je me rappelle, c'était en troisième, je pense que c'était le secondaire. Et puis, grâce à Dieu, à ce moment-là, j'avais assisté à une école de ministère, très jeune. Il y avait toute la fougue de la jeunesse. On allait dans la rue, on évangélisait, ainsi de suite. C'était bien beau. Et puis, on avait un frère qui était aussi bien zélé. Et on préparait des examens. Et pour lui, il préférait aller évangéliser, mais pas travailler. Je dis, mais Jean-Charles, mais on doit bosser aussi, on doit travailler pour les examens. Il dit, non, Dieu va intervenir. J'ai dit, écoute-moi, non, moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pas que je vais passer confiance à Dieu, mais je vais quand même travailler. C'est vrai que j'étais nouveau dans la foi, c'est vrai que j'avais ce petit sérieux-là de vraiment travailler. J'ai dit, écoute ça, je ne vais pas là-dedans, je vais quand même travailler. Et en effet, on s'est, à un moment donné, j'ai parlé à son père, parce que son père était quand même mature dans la foi. Et puis il me dit, mais en fait, vous trompez complètement. C'est pas Dieu qui va les composer à l'examen pour vous. Non, c'est que vous devez travailler et Dieu, dans sa grâce, dans sa providence, vous aide aussi. Donc on n'est pas là, les bras ballants, ne rien faire et s'attendre à ce que Dieu intervienne dans nos vies. Non. Et c'est là la paresse de ce peuple. Donc Israël veut les fruits de l'alliance sans en vivre la fidélité. Parce que le travail, c'est une ordonnance, c'est une ordonnance créative, de la création aussi. Et donc l'homme naturel aime les bénédictions de Dieu, il aime la paix, il aime la prospérité, il aime la sécurité, mais il rejette la seigneurie de Dieu. Il cherche les dons, mais refuse de porter le joug de la justice. Et cela reflète une religion de convenance, qui est sans repentance. Dieu annonce qu'il placera un joug sur Israël. Ce joug symbolise l'appel à une obéissance active et volontaire. Dieu, par le biais de son prophète, exhorte Israël à pratiquer la justice et à rechercher l'Éternel, offrant ainsi une opportunité de réconciliation entre Israël et son Dieu. Ici, la repentance est vue comme un don de Dieu. Et l'homme est appelé à répondre à cet appel par la foi et l'obéissance. C'est un retour au vrai travail spirituel, labouré, hercé, semé. Quand on parle de hercé, c'est des espèces dans les champs de machines pointues qui essayent de ratisser les champs, la terre, pour que ça puisse, qu'on puisse mettre, disons, des semences. Donc, hercer, semer, des gestes qui exigent transformation, une transformation de nous, une rupture avec la stérilité du sol ancien et une persévérance dans notre relation avec le Christ. Et ce que nous pouvons lire au verset 12, semer selon la justice, c'est littéralement adopter une vie conforme à la loi morale de Dieu. Moissonnez selon la miséricorde. Attendez les fruits de l'alliance de grâce, non par mérite, mais selon la fidélité de Dieu. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire abandonnez vos voies anciennes, vos traditions vides, vos cœurs endurcis. Il est temps de chercher l'Éternel. Toujours au verset 12. Il est temps de chercher l'Éternel. C'est l'urgence du réveil, de la réforme du cœur. Ce qui veut dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Ce passage reflète le principe de la double semence. Nous lisons dans Galates 6, des versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Soit l'homme sème pour sa chair, soit il sème pour l'esprit. Il n'y a pas de neutralité, hein, où j'ai un pied dedans. Non, c'est soit on sème pour la chair, soit on sème pour l'esprit. Il y a un choix qui est là, il y a un choix qui est à faire. Le fruit de la justice vient de l'obéissance nourrie par la loi, nourrie par la foi, non d'un ritualisme extérieur. Ce champ nouveau est une image du renouvellement intérieur produit par le Saint-Esprit. Le champ nouveau. Nous lisons dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, quel est le verdict ici? Dans la première partie du verset 13. C'est une moisson de jugement. Nous lisons, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Le langage de ce verset est accusateur, mais aussi tragique pour ce peuple. Israël a semé le mal et il a récolté exactement ce qu'il a semé. La ruine morale, la ruine spirituelle et une ruine nationale. Lorsqu'on parle de manger le fruit du mensonge, manger le fruit du mensonge, c'est exactement une croyance dans des alliances humaines, dans des faux dieux, ou même en une religion vide, une religion qui est sans cœur. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi, comme on l'a vu dans Galates. Un principe moral universel enraciné dans la justice de Dieu. Cette moisson désastreuse met en relief la nécessité d'un sauveur parfait, qui, lui seul, a semé la justice et moissonné pour nous la vie éternelle. Là où Israël a échoué, Christ a obéi pleinement à la loi. Et par sa justice, nous recevons la miséricorde promise. Dieu appelle son peuple à quitter cette superficialité, on peut dire, religieuse, cette religion à la surface, et à s'engager dans une repentance qui est sincère, une repentance qui est réelle. Ici, la parole de Dieu nous enseigne que sans transformation intérieure, aucune réforme extérieure n'est durable. C'est exactement ça. Une religion n'est pas une religion externe où je viens à l'église tous les dimanches, je chante. C'est vrai, je suis gentil avec les frères et sœurs. Mais intérieurement, je n'ai pas fait la paix avec Dieu. Où je vis à l'encontre de la loi de Dieu. Il annonce également que la seule moisson bénie est celle enracinée dans la justice que Dieu a donnée en Christ. C'est en lui seul que nous avons la vraie justice. En lui seul que nous avons le vrai pardon des péchés. Et dans une repentance sincère, il nous bénit et il nous dirige. Amen. Mon troisième point, parce qu'on est trinitaire, on n'a pas fini. Donc le jugement juste et inévitable de Dieu, la deuxième partie du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons, car tu as eu confiance dans ta voix, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes les forteresses seront détruites, comme Chalman détruisit Beth Arbel, au jour de la guerre où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. La confiance dans sa propre voix. Cette confiance en soi. Ici, le prophète indique la principale source de tous les péchés. Car les Israélites, se confiant en leur propre conseil, n'écoutaient pas la parole de Dieu. Et alors, fortifiés par leur propre force, ils ne redoutaient pas ses jugements. Car tu as eu confiance dans ta voix. Osée révèle la racine du mal d'Israël ici. La confiance en soi plutôt qu'au Dieu de l'Alliance. Israël se reposait sur lui. Ce n'est pas simplement l'idolâtrie rituelle qui est condamnée ici, mais l'indépendance spirituelle. La prétention de se gouverner soi-même. Israël croit en la multitude de ses vaillants hommes, c'est-à-dire en ses ressources humaines, ses ressources politiques, ses ressources militaires et même financières aussi, parce que c'était un peuple qui était béni. Il se reposait sur tout cela. Et ce verset fait écho à Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Amen. Ah, ça, c'est la parole de Dieu, hein, c'est, qui le dit. Parce que quand on lit ça, on s'examine le nombre de fois où on s'est reposé. Parce qu'on se repose sur les hommes. On se repose sur nos ressources. Mais pourtant, c'est Dieu qui nous donne ces ressources. C'est Dieu qui crée les hommes. Mais c'est en lui que nous devons nous dépendre entièrement. Nous devons dépendre du Créateur et non de la créature. C'est une illustration vivante du péché d'autosuffisance religieuse. Une foi formelle, mais sans dépendance réelle de Dieu. On lit tellement de choses aujourd'hui, on écoute tellement de podcasts, c'est qu'à un moment donné, on commence à surinterpréter. Mais nous devons avoir cette prière constante, que le Seigneur puisse faire descendre ce que nous apprenons dans notre cœur. Sans ça, c'est une religion, c'est une foi qui est vide de sens. Elle est juste intellectuelle. Mais nous devons dépendre entièrement de Dieu. Le laisser faire le travail en nous. Pas à nous de faire le travail que lui doit faire en nous. Parce que ça, en fait, nous dépendons uniquement sur notre intelligence. Notre soi-disant intelligence. Cela souligne combien l'homme refuse le joug doux de Christ. Comme lisons dans Matthieu 11, verset 29. Pour suivre sa propre voie large qui mène à la destruction. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est pourquoi le jugement de Dieu ici est implacable. Au verset 14, on le voit, il y a la guerre et une destruction totale. Au verset 14, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes les forteresses seront détruites, comme Chalman détruisit Beth Arbel au jour de la guerre où la mère fut écrasée avec les enfants. La conséquence directe de cette confiance erronée, on peut dire confiance erronée, mais de cette confiance en soi et non en Dieu, c'est la guerre et la destruction. Osée annonce que toutes les sécurités visibles, les forteresses, les armées, seront anéanties. Il cite un exemple tragique, la chute de Beth Arbel, événement sanglant probablement connu des contemporains, où des mères et enfants furent écrasés par Shalman, qui est probablement Salmanazar, roi d'Assyrie. Cette image choquante vise à réveiller nos consciences qui sont tellement engourdies. Israël a semé le mal et récolte la corruption. Illustrons la loi spirituelle de la semence et de la moisson. Notre confession de foi, au chapitre 6, paragraphe 3, enseigne que le péché entraîne des conséquences désastreuses dans la vie humaine. Le jugement de Dieu n'est pas arbitraire. Le jugement de Dieu est juste et il est proportionné. Et en réponse à une obstination de notre culpabilité, la guerre décrite ici préfigure le jugement final contre ceux qui résistent à Dieu. Typologiquement, ici, la chute de Beth Arbel préfigure la destruction spirituelle de tout ce qui rejette le Christ. Tout ce qui rejette la seigneurie de Christ. Ils tomberont sous la colère de Dieu sans médiateur. Les conséquences du péché non confessé sont réelles, brutales et souvent irréversibles. L'orgueil religieux et politique d'Israël l'a conduit à sa ruine et à sa perte. Le verset 15 annonce le renversement du roi et l'effondrement de l'espérance humaine. Voilà ce que vous attirera, Bethel. À cause de votre extrême méchanceté, vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. Bethel, centre du culte idolâtre. La source du jugement devient le symbole de la fausse religion qui attire le jugement divin. Le roi, représentant politique et spirituel du peuple, sera entièrement détruit dès l'aurore. L'effondrement du pouvoir politique est certain. C'est la fin de l'illusion d'un royaume qui était autonome, d'un royaume sans Yahvé. Et l'Église doit se méfier des alliances aussi, des alliances politiques, des alliances avec des églises qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur, des églises qui se détournent complètement des commandements de Dieu. L'Église doit aussi se méfier des gloires humaines et se tenir à genoux devant son véritable roi, Jésus-Christ. Là où le peuple place sa confiance, les institutions, les figures d'autorité humaine, les structures religieuses, tout cela peut être renversé par Dieu si elle ne respecte pas son alliance et son autorité. Nous lisons dans le psaume 118, des versets 8 à 9. Psaume 118, 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Cela souligne notre besoin, non pas d'un roi humain déchu, mais d'un roi parfait et éternel. Qui est ce roi? C'est Jésus-Christ, le fils de David, le vrai berger, le vrai roi de son peuple. Les trônes terrestres tombent, mais le ciel appelle un roi éternel. Osée démontre la fatalité du jugement pour ceux qui se confient en eux-mêmes. Le tumulte, la guerre, la perte, la ruine. Tout cela est le résultat logique d'une vie qui est sans repentance. Mais à travers ces images sombres, Dieu nous montre la beauté du salut en Christ. Là où Israël s'est appuyé sur ses forces, nous sommes appelés à dépendre de la grâce seule. Là où les rois terrestres tombent, que nous dit le psaume 2, un roi éternel a été établi. Là où les forteresses s'effondrent, la croix devient notre refuge et notre paix. Pour finir, frères et sœurs, le cri du prophète Osée traverse les siècles et vient frapper à la porte de nos cœurs aujourd'hui. Ce texte nous montre ce que produit une religion qui est sans repentance. Un peuple qui aime ses idoles, qui laboure l'iniquité, qui récolte l'injustice. Israël se confiait dans sa force militaire, dans ses rois, dans ses autels. Mais tous ces refuges ont été balayés par le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la personne qui sauve, Jésus-Christ. Mais au milieu de cette sévérité, souvenons-nous, si Dieu, avec tant de clarté et de force, si Dieu parle avec tant de clarté et de force, c'est parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux, qui ne veut pas notre ruine et notre destruction, mais il veut notre salut. Il le dit en Deutéronome 6, 14, 15. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. C'est un vibrant avertissement. Notre Dieu est un Dieu jaloux que nous devons aimer de façon exclusive, que nous devons servir de façon exclusive. Ce jugement annoncé pointe en fait vers notre besoin désespéré d'un sauveur. Non pas un roi humain, pas des dieux des peuples, ou une réforme superficielle, mais le Messie promis, Jésus-Christ. Christ est celui qui, à la croix, a porté le jugement que méritait un peuple rebelle comme Israël, et comme nous aussi. Il est la vraie semence de justice, le seul qui ait parfaitement aimé Dieu, le seul qui ait porté le poids de notre moisson d'iniquité, là où Israël a échoué, là où l'Église moderne parfois chancelle. Christ a triomphé. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui? Nous ne devons pas nous fier à des formes religieuses sans foi vivante, pas une religion extérieure. Comme Israël, nous pouvons avoir l'apparence de la piété tout en niant la puissance de Dieu. Il ne suffit pas de fréquenter une bonne église, de chanter des cantiques réformés ou de connaître les confessions de foi. Dieu cherche des cœurs brisés. Dieu cherche des cœurs repentants. Dieu cherche des cœurs obéissants. Deuxièmement, labourons nos cœurs, pas seulement notre image extérieure. Le verset 12 nous appelle à défricher un champ nouveau. Il y a des habitudes à briser, des compromis à abandonner, des idoles en nous à déraciner. Et cela commence dans la prière, dans l'humilité et la soumission à la parole de notre Dieu. Troisièmement, revenons à Christ, pas une seule fois, mais tous les jours, tout le temps. Ce texte ne nous pousse pas à essayer d'être meilleur, mais à courir à Christ encore et encore. C'est en lui que nous trouvons la grâce pour changer, la puissance pour vivre dans la justice et l'assurance que même si le jugement est mérité, la miséricorde triomphe toujours en Christ et par sa croix. Enfin, rappelons-nous toujours que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il est encore saint. Il juge encore le péché. Mais en Christ, il nous a donné un refuge éternel. Alors, cherchons le pendant qui se laisse trouver. Semons pour la justice, non pas pour gagner son amour, mais parce que nous l'avons déjà reçu pleinement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole vivante. Merci pour Christ. Merci pour le don de la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, nous venons à tes pieds pour te demander pardon pour ce que nous sommes, des pécheurs. Nous te prions, Éternel, de purifier nos cœurs par ta grâce, afin qu'on puisse te chercher de tout notre cœur, qu'on puisse vouloir marcher avec toi en sainteté de vie. Nous te prions, Seigneur, de défricher nos cœurs, d'arracher nos idoles. Ne nous laisse pas nous appuyer sur nos propres forces ou sur nos traditions qui sont mortes, qui sont vides, Seigneur. Ramène-nous à toi, Éternel notre Dieu. Donne-nous de semer dans la justice et de moissonner dans ta miséricorde, Éternel notre Dieu. Seigneur, s'il y a des habitudes en nous ou des traditions qui nous éloignent de toi, Seigneur, aide-nous à nous en séparer. Aide-nous à les couper de notre vie, Seigneur. Nous te prions de nous aider aussi en tant qu'Église à nous réformer continuellement dans ta parole, à la méditer, de ne pas être des Bethel, Seigneur, mais que nous puissions toujours venir devant toi avec une attitude de repentance sincère. Je te prie, Éternel, de faire tomber nos Bethel, Seigneur, et d'élever ton trône de grâce dans nos vies. Seigneur, que notre vie tout entière soit centrée sur Christ. Parce que c'est lui seul qui règne au siècle des siècles. C'est lui seul qui règne en ce siècle présent et dans le siècle à venir, Seigneur. Merci pour tout. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur, notre ultime berger, que nous te prions. Amen.